Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne À votre avis. Nathalie Barge pour vous accompagner dans ce débat. Selon le nouveau rapport sur les progrès réalisés en matière d'accès à l'électricité et d'énergie renouvelable, le taux d'électrification mondiale a atteint 89% et 153 millions de personnes supplémentaires ont accès à l'électricité chaque année. En Afrique subsaharienne, la population est électrifiée à 44% et seulement 22% en milieu rural, tandis que le taux varie entre 70% et 100% sur tous les autres continents. Alors, quelles solutions préconisez-vous pour améliorer l'accès à l'électricité et développer l'énergie renouvelable en Afrique? Est-ce que vous pensez que les progrès sont satisfaisants dans votre environnement où vous vivez exactement, dans votre région, dans votre pays? Et comment est-ce que vous gérez le manque d'accès à l'électricité? Et qu'attendez-vous comme avancée dans votre région ou votre pays? Alors, ce rapport, je le cite parce qu'il est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller le voir. Et vous faites Tracking SDG 7, Tracking TRACKING SDG 7, et vous le trouverez donc sur Internet. Ça vaut le coup d'aller cliquer là-dessus et de voir un petit peu comment évolue donc la plupart des pays dans ce domaine. Alors, garantir l'accès à une échelle abordable, fiable, durable et moderne pour tous d'ici 2030 est l'un des objectifs de développement durable, comme nous le savons. Et la problématique du manque d'accès à l'électricité en Afrique revient toujours au devant de la scène dès qu'un rapport sur cette question est publié, étant donné les chiffres toujours très bas, avec une certaine évolution toutefois, pour ne pas dire une évolution certaine. Alors, les auteurs du rapport appellent à un doublement du taux d'amélioration de l'efficacité énergétique, bien sûr, ainsi qu'à une augmentation substantielle de la part des énergies renouvelables. Ce rapport a été réalisé par l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, IRENA, et la division des statistiques de l'ONU, la Banque mondiale ainsi que l'OMS. Nous avons probablement un auditeur en ligne. On a Kevin qui est en République démocratique du Congo et qui veut nous parler des deux barrages notamment qu'il y a dans son pays. Kevin, bonsoir, à vous la parole.
Bonsoir, bonsoir Vera, bonsoir à tous vos auditeurs.
On vous écoute.
Ok. Je voulais m'exprimer sans hésiter. Quand j'étais en cinquième secondaire, on a utilisé deux barrages, les barrages Inga 1 et les barrages Inga 2. Selon les informations, on a utilisé que non, ces deux barrages sont capables d'alimenter toute l'Afrique. Donc avec ces deux barrages, on peut alimenter toute l'Afrique. Mais quand je regarde dans mon pays, nous passons nous dans le noir, tandis qu'il y a des pays qui dépendent de nous pour citer. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud et la Zambie. Ces deux pays n'ont jamais eu les problèmes de coupures et peu importe. Mais ici chez nous, les coupures c'est à tout moment. Quand je vous parle d'ailleurs, on est dans le noir. On est dans le noir, il y a eu coupure, il n'y a même pas 15 minutes. Mmh. Et vous verrez encore à 5 heures, s'il n'y a même pas moyen de chauffer l'eau pour se laver, nous sommes déjà dans la saison sèche, il fait des fois moins de 20 degrés, moins de 18 degrés, pour chauffer l'eau, c'est tout un problème. Mmh. Je peux dire que on peut dire que par là que non, c'est...
Mais Kevin, comment est-ce que vous vous débrouillez justement quand vous êtes dans une telle situation? Vous dites que vous êtes dans le noir, donc comment vous vous débrouillez pour faire ce que vous avez à faire quand arrivent ces coupures? Comment vous vous organisez?
Donc, il y a des torches chargeables, pour la lumière, il y a des torches chargeables, on peut charger quand il y a du courant, quand il n'y en a pas, on utilise les torches. En ce qui concerne chauffer le autre, nous utilisons les drains simplement.
Est-ce que vous avez des générateurs aussi, des générateurs, des groupes électrogènes ou autres?
Oui, des fois des groupes électrogènes, mais vous savez, les groupes électrogènes, il faut payer les carburants et autres, tout ça. sont que des dépenses, parce que le courant, nous payons la facture chaque mois, même s'il y a des coupures de temps en temps, mais ils pensent quand même, ils vous disent que non, même si vous avez utilisé le courant un jour, vous avez droit à la facture. Et on nous donne la facture qui est tellement au sous, vous vous demandez, ça provient d'où? Pas d'explication.
Merci beaucoup. Kevin, merci beaucoup pour votre témoignage. Kevin, à partir de la République démocratique du Congo, alors selon ce rapport, hein, 19% de la population en République démocratique du Congo a accès à l'électricité. Je dis bien selon ce rapport, et 49% dans les zones urbaines. Hein. Dans les zones rurales, on a un chiffre, on ne sait pas si ce chiffre se rapproche de la réalité, mais il est près du zéro. Voilà, ça c'est encore une fois selon le rapport en ce qui concerne donc d'une manière générale et les zones rurales. Et alors, les experts estiment que, les experts en sciences et environnement estiment notamment que l'Afrique subsaharienne a besoin de solutions de remplacement aux générateurs auxiliaires pour renforcer la réalisation et la durabilité de ce septième objectif de l'agenda 2030 des Nations Unies. Alors il y a évidemment l'énergie solaire, le biogaz pour garantir l'alimentation en électricité. Et la question de ces générateurs, c'est un réel problème. Alors ils sauvent la vie à beaucoup de gens, ils aident beaucoup de personnes et d'entreprises effectivement, mais ils sont très bruyants et ils sont très polluants. On a un autre auditeur en ligne. On a Félix en ligne qui est en Côte d'Ivoire et qui pense que le taux d'électrification dépasse largement les chiffres avancés. Alors effectivement, Félix, on a comme chiffre, d'après ce rapport, République de Côte d'Ivoire, 66% de la population qui est électrifiée et en zone rurale, c'est 37%. Et alors vous expliquez que vous pensez que c'est au-delà de cela. On vous écoute, Félix.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Effectivement, en Côte d'Ivoire, ici, les chiffres de ces études qui ont été publiées sur votre page Facebook, la Côte d'Ivoire a des chiffres nettement supérieurs à ça. Pourquoi? Parce que depuis des décennies, ici en Côte d'Ivoire, tous les différents gouvernements et les personnes qui sont citadées ont fait l'effort d'électrifier les villages les plus reculés. Ce qui fait que même les villages où il y a plus de 500 habitants, l'État a fait l'effort que le courant soit donné à ces populations-là. Et aussi, dans les campements les plus reculés, où l'accès même par voie terrestre est difficile, dans ces campagnes-là, les gens ont trouvé l'alternative d'utiliser les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et même les groupes électrogènes. Ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, ici, il n'est pas facile de trouver des campements où il n'y a pas de panneaux solaires. C'est-à-dire quoi, que l'accès à l'électricité ici est donné à tout le monde, que ce soit avec l'énergie hydraulique ou l'énergie renouvelable telle que solaire ou les groupes électrogènes, les Ivoiriens ont nettement accès à l'électricité. C'est vrai qu'il y avait, les années reculées, on connaissait le délestage, mais ces problèmes-là sont un peu derrière nous aujourd'hui. Les différents gouvernements ont fait assez d'efforts pour pallier à cette difficulté liée au courant électrique.
Merci beaucoup, Félix, pour votre témoignage par rapport à votre pays. Alors, selon Jeune Afrique, je reviens sur la question des générateurs, parce que ils contribuent aux émissions de gaz à effet de serre et ont un impact négatif sur la santé. Alors, Jeune Afrique dit dans un article que le marché des générateurs électriques croît de 10% à 20% par an. Donc croît beaucoup plus vite que l'électricité, l'accès à l'électricité elle-même. Le Nigeria, premier marché des groupes électrogènes. Alors dans ce pays, il représente une capacité totale de 10 à 15 gigawatts, tandis que les centrales électriques classiques ne dépassent pas les 4 gigawatts. Alors l'Afrique importe, poursuit Jeune Afrique, pour 1,2 milliard de dollars par an de groupes électrogène, soit environ 90 000 machines. Mais il faut aussi prendre en compte les importations non répertoriées, les productions locales, les flux illégaux aux frontières ou les réparations de vieux moteurs, souligne un organisme d'analyse. Et sachant qu'il faut renouveler ces machines qui rendent généralement leur dernier souffle au bout de 5 ou 10 ans de service. On a un autre auditeur en ligne. Aruna Baldé, au Sénégal, à Dakar. Aruna, bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les étudiants de la VOA Afrique.
Bonsoir à vous la parole.
Alors, moi je m'en vais faire une comparaison par rapport en 2011-2010 et à l'époque actuelle. Vraiment, il y a une nette évolution en matière de couverture d'électricité. Aujourd'hui, le Sénégal, bon, auparavant, il y avait tellement de coupures courantes, mais aujourd'hui, avec l'avènement du président Macky Sall au pouvoir, il y a eu des réformes significatives par rapport à la couverture de réseaux d'électricité dans le milieu urbain. Mais ce que je déplore surtout, que toujours il y a un manque de volonté politique parce que le monde rural n'a pas toujours accès vraiment à l'électricité. Et moi, je trouve ça comme un manque de volonté politique parce qu'aujourd'hui, on a le soleil. On a le soleil. Si aujourd'hui l'État, les autorités étatiques prenaient exemple les lampadaires pour les mettre dans les zones rurales ou bien les centrales solaires, je crois que ça allait vraiment booster l'économie sénégalaise d'une part, parce qu'aujourd'hui le monde rural a une forte attractivité par rapport à la consommation de l'énergie. Mais moi je vois ça comme un manque de volonté politique en fait.
Un grand merci, Aruna, pour votre témoignage à partir du Sénégal. Au Sénégal, où, selon, encore une fois, ce rapport qui a été publié par 5 organisations internationales, le Sénégal, donc, au Sénégal, 62% de la population a accès à l'électricité. On a le commentaire de Ali Saniguet, qu'on essaie de joindre par téléphone, qui a écrit sur notre Facebook, si vous voulez savoir dans quelle zone en Afrique subsaharienne il n'y a pas d'électricité, où le délestage est récurrent, dit-il, faites un tour dans les châteaux de nos dirigeants et vous comprendrez pourquoi la population manque d'électricité, car on dirait que nos petites sociétés d'électricité ne sont là que pour eux, dit-il. Dès lors, ils oublient la situation des citoyens. Ali Saniguet, qui est tchadien. Nous avons en ligne Vincent Seounou, qui est au Bénin et qui pense qu'il y a eu des progrès dans son pays. Vincent, bonsoir, à vous la parole.
Oui, bonsoir, cher journaliste. Excusez-moi pour la qualité d'écoute. Et dans mon pays, les progrès ont été changés, effectivement. On peut dire que la chose a changé suite à l'arrivée du président Patrice Athanase Guillaume Talon, qui a prôné qu'il va faire tout possible pour que les Bénins soient satisfaits de l'énergie. Effectivement, suite à son arrivée, on constate que dans les villes à statut particulier et aussi à d'autres villes, vraiment il n'y a pas de coupure intempestive comme on l'observait entre-temps au temps du régime défunt. Mais à base de cela, nous avons aussi des problèmes. Mais quand il y a coupure, c'est ceux qui sont riches qui utilisent les groupes électrogènes ou bien les panneaux solaires pour les pauvres. Mais moi, je me demande si quelqu'un qui est ici d'une famille pauvre, mais qui n'a pas les moyens, mais qui produit des produits congelés ou bien des buvettes, mais comment celui-là peut s'en sortir s'il n'a pas les moyens pour payer le groupe électrogène alors qu'il est dans les zones les plus reculées? Parce que, bon, tout n'est pas rose. Et dans les zones reculées, il y a tellement de manques. Mais quand on prend les villes à statut particulier, c'est un peu bon. Allô, Béwa.
Oui, je vous écoute. Parfait. Merci beaucoup, Vincent, pour votre témoignage. Vincent, à partir du Bénin, au Bénin, où selon ce rapport donc sur les progrès en matière d'énergie, surtout en matière d'électricité, donc le Bénin, on a 43% de la population qui a accès à l'électricité, et en zone rurale, le chiffre baisse toujours, bien entendu, en zone rurale, c'est de 17% au Bénin. Et bon, je ne vais pas vous citer tous les chiffres, mais quand on arrive en zone urbaine, bien entendu, le chiffre est généralement nettement supérieur. Il est même supérieur, bien entendu, à la moyenne. Est-ce qu'on a Barry Ousmane en ligne au téléphone ? Nous n'avons pas Barry, alors je vais citer son commentaire. Il dit, en Afrique subsaharienne, notamment dans mon pays, le Mali, les universités ne sont pas adaptées à la réalité du monde qui change, pense-t-il. Le soleil est presque présent 24 heures sur 24, mais par manque d'innovation et de révolution, nous vivons toujours dans l'obscurantisme du monde actuel, notamment en milieu rural, précise-t-il. Et de poursuivre, l'État n'accompagne pas les étudiants dans ce genre de créativité pour leur faciliter la tâche. L'électricité reste toujours un luxe pour nous et le problème est loin d'être résolu. Il existe plusieurs moyens pour régler ce problème, mais on constate un manque de volonté politique de nos gouvernements, pense-t-il. Il faut des investissements pour accompagner les jeunes qui s'adonnent à ce domaine. Sinon, il n'y a pas de développement sans électricité. C'est Barry Ousmane qui est au Mali. On a un Géchoroum Abdoulaye qui est en Côte d'Ivoire. Abdoulaye, bonsoir, à vous la parole.
Bonsoir, chers amis de la VOA. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas... le problème de l'électricité ne se pose pas en termes de disponibilité, mais plutôt un problème d'accessibilité.
Oui.
En ce sens que... la Côte d'Ivoire est exportatrice d'électricité. Nous avons suffisamment d'électricité. Nous exportons ça au Ghana, au Burkina, au Mali, au Togo et au Libéria. Mais les infrastructures, les équipements de transport d'électricité et de distribution dans le pays sont obsolètes. Ce sont des équipements qui n'ont pas été renouvelés et la population a augmenté. Et donc, de plus en plus, on assiste à véritablement à des incendies dans les quartiers compte tenu de la vétusté de ces équipements.
Mmh. Et vous parlez notamment de la réduction, parce que vous parlez des choses positives dans votre commentaire, la réduction du coût du kilowatt pour les ménages à faible revenu. Vous dites
oui, tout
que
à
les
fait.
Voilà.
Le gouvernement a procédé dans le souci de permettre l'accessibilité, le gouvernement a réduit le kilowattheure et les frais de raccordement qui s'élèvent à 120 000 ont été étalés sur un calendrier de 12 mois pour pouvoir les payer. Mais évidemment encore, les populations estiment qu'en tant qu'exportatrice d'électricité, on devait pouvoir payer moins. Et dans nos campagnes également, quelquefois, il y a des populations même qui habitent à côté des barrages qui produisent l'électricité, mais ces villages-là ne sont pas, bizarrement, depuis une vingtaine d'années, ne sont pas encore électrifiés. Et on a du mal, les populations ont du mal à comprendre cela.
Alors vous parlez notamment, et vous n'êtes pas le seul, dans plusieurs pays d'Afrique, on a ce type de commentaires, vous parlez de revoir le monopole détenu par la compagnie ivoirienne d'électricité qui contribuerait, selon vous, à la réduction du coût du courant.
Oui, tout à fait, parce que au niveau de la privatisation qui a été faite, la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, a le contrôle de la distribution, c'est-à-dire comment payer les factures, faire les raccordements. Mais les équipements, les barrages et tout ce qui concerne les équipements appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Et nous estimons donc que, au lieu de laisser seul entre les mains de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, distribuer le courant aux populations, on devrait pouvoir faire appel à d'autres opérateurs. Ainsi, la concurrence va faire que chacun va proposer un prix rémunérateur. Et par ailleurs, on peut faire appel aussi à l'électricité solaire. Aujourd'hui, pour importer les équipements pour faire les panneaux solaires, les coûts sont extrêmement élevés, de sorte que les panneaux étant plus chers que l'électricité, les gens préfèrent plutôt l'électricité, alors que avec le soleil qui a bon marché, on devrait avoir l'électricité à moindre coût.
Merci beaucoup, Abdoulaye, pour ce commentaire, notamment sur la vulgarisation aussi des énergies renouvelables. C'est le sujet, et particulièrement en Afrique. Nous avons le commentaire de Salé Mahamat. Salé Mahamat, qui est un Djaménin, il a écrit sur notre Facebook: le collectif tchadien contre la vie chère appelle à une manifestation pacifique samedi à N'Djamena et demande le départ du ministre du pétrole. Pour cause, dit-il, les coupures intempestives d'électricité en cette période de chaleur. On a Salomon qui est en République démocratique du Congo. Alors il dit: j'habite à Kinshasa, le problème de l'électricité n'est pas résolu. On peut arriver à 30% de la population qui a du courant, et ce qui fait défaut est que la Société nationale d'électricité n'a pas de concurrent, et cela crée une négligence et un manque de suivi. Donc Salomon, qui lui est en RDC et qui avance la même problématique de sa part, donc que nous avons eu de la part de Abdoulaye en Côte d'Ivoire. Nous avons Mamadou en ligne. Mamadou.
Allô, oui, bonsoir.
Bonsoir à New York, d'origine guinéenne, on vous écoute.
Oui, effectivement, je dis bonsoir à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Bon, ce sujet-là, c'est un sujet vraiment qui est bilan sur le continent africain, et je parle particulièrement de la Guinée et de mon pays d'origine que je connais très bien. Actuellement, toutes les populations guinéennes, que ce soit dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, sont plongées dans le noir sans précédent. Et ce phénomène est dû pratiquement à la mauvaise gouvernance. De l'indépendance à maintenant, nous avons une seule communauté ou bien classe politique qui a dominé et qui a géré ce pays. Donc, en ce qui concerne les énergies renouvelables, la Guinée a suffisamment de potentialité pour non seulement doter l'ensemble de ses populations de courant électrique, mais aussi exporter ce courant qui serait une source de revenus considérable pour la Guinée. Mais malheureusement, la mauvaise gouvernance est toujours là, et elle est un frein pour le développement de la Guinée et au bien-être de ses populations. Je prends un exemple en ce qui concerne entre l'Éthiopie et la Guinée. L'Éthiopie qui a débloqué 3,2 milliards de dollars pour 6000 mégawatts, la Guinée a débloqué ce même montant, 3 milliards de dollars, pour une capacité de 725 mégawatts. Et ces projets-là sont toujours en cours, et la capitale, presque c'est la capitale, et certaines régions administratives qui sont alimentées en courant et sont plongées dans le noir. C'est tout le temps, il y a des manifestations spontanées qui réclament le courant. Et l'EDG, c'est la société qui est chargée de distribuer le courant. Cette société cause plus de mal que les guerres civiles, puisque à chaque fois qu'il y a coupure de courant, quand le courant revient, c'est avec une forte tension et qui cause des incendies. Souvent, des familles entières sont décimées. Donc, la politique énergétique de la Guinée, c'est à revoir. Et j'espère bien qu'avec les élections présidentielles qui se pointent à l'horizon en 2020, les Guinéens pourront se mobiliser et barrer leur route à Alpha Condé.
Alors, merci beaucoup. On va éviter de faire de la politique. C'est pas du tout le sujet, Mamadou. Un grand merci pour votre témoignage. On a Alice Aniguet qui est en ligne, dont j'ai parlé tout à l'heure. Bonsoir.
Oui, bonsoir la VOA, bonsoir. Mais les auditeurs.
On vous écoute rapidement, vous êtes le dernier auditeur.
Oui, je disais tantôt dans mon commentaire que pour, n'est-ce pas, connaître le vrai problème dont nous parlons actuellement, il va falloir que vous fassiez un tour dans les châteaux de nos dirigeants, et vous comprendrez pourquoi la population manque régulièrement d'électricité. Voilà. Ce problème en est que nos petites sociétés nationales d'électricité n'arrivent pas à fournir, n'est-ce pas, d'électricité nécessaire à la population, en ce sens que leurs activités, n'est-ce pas, sont beaucoup plus concentrées, et ils ne fournissent que l'électricité à nos dirigeants. Et comme je disais, il va falloir que ceux-ci goûte au moins, n'est-ce pas, chaleur que subisse la population telle qu'en Djamena, il fait tellement chaud sans électricité, les gens en souffrent. Donc, il faudrait qu'ils se mettent sous cette condition pendant ne serait-ce que 2 heures ou 3 heures et ils comprendront.
Un grand merci, Ali. Un grand merci. Vous êtes le dernier auditeur. Merci beaucoup à Joselle Morissin à la production. Un grand merci à vous toutes et à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices. Restez à l'écoute de VOA Afrique pour la suite.